Voici au cœur de la radicalité de l'Évangile. Nous voici dans l'impossible, l'insoutenable du message de Jésus. Cette année au catéchisme, et merci à Graziella d'avoir répondu à mon invitation, nous penchons sur les deux commandements d'amour, aime Dieu et aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Alors évidemment, de génération en génération, la même question revient, comment est-ce que c'est possible d'aimer sur commande? C'est un commandement de Jésus et ça nous paraît impossible. L'amour ne se commande pas. Au début de la semaine a commencé le procès de ceux qui ont participé à l'organisation du meurtre du prêtre Jacques Hamel le 26 juillet 2016. Ce prêtre, âgé de 86 ans, a été tué pendant qu'il célébrait une messe en semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray, à côté de Rouen. Après 5 ans, sa sœur, Roselyne Hamel, de qui il était très proche, raconte son chemin de souffrance jusqu'au pardon. Et c'est une histoire sur laquelle j'aimerais revenir aujourd'hui parce qu'elle illustre pour moi l'amour possible des ennemis. Comment a-t-elle réussi à faire ce chemin? Alors j'aimerais souligner qu'elle a été entourée déjà par beaucoup de personnes qui avaient aimé son frère. Il y a eu un homme qui a failli mourir dans les mêmes circonstances. Des personnes d'église, évêques, prêtres, jusqu'au pape. Et puis, sa souffrance a été si vive qu'un jour, elle s'est posé la question « Qui peut souffrir plus que moi ?» Ce n'est pas possible. Combien de temps vais-je tenir? Pour moi, c'est une question qui est un point charnière. C'est un point de basculement. En effet, quand on souffre, on lutte comme on peut. On se laisse parfois envahir par le désespoir, le découragement, par l'humiliation qu'on subit. Et on n'a pas la clé pour en sortir. Quand on ne supporte plus ce qui nous arrive, on cherche une issue. Et l'issue peut arriver parfois par un questionnement qui nous vient, une réflexion qui nous est donnée sans qu'on l'ait attendue. Et alors on peut se mettre en route différemment. Comme on ne peut de toute façon pas changer la réalité extérieure, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut agir. Qui peut souffrir plus que moi? Roselyne Hamel est elle-même une mère. Et elle s'est imaginée qu'un de ses enfants commette un tel acte. Et je trouve beau de pouvoir se mettre en route pour penser l'inimaginable. Alors elle a pensé à la mère du terroriste, au regard qu'on devait lui adresser, à la culpabilité qu'elle devait ressentir. Quand on est parent, on se demande toujours où l'on s'est trompé quand notre enfant tourne mal. Roselyne Hamel disait toujours à ses propres enfants: ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'il faut garder les deux pieds dans le même sabot. Il faut relever la tête, aller de l'avant. Alors elle a essayé de le vivre elle-même, d'être en cohérence avec l'éducation qu'elle leur a donnée. Et en répondant à un journaliste de sa commune, un an après, elle a demandé s'il connaissait cette famille et elle lui a demandé leurs coordonnées. Après quelques mois, un coup de téléphone, et les deux femmes se sont rencontrées. La mère du terroriste a demandé pardon à la sœur de Jacques Hamel. Mais cette femme n'y était pour rien. Si je reprends le mot « ennemi », cette femme n'était pas l'ennemi, ce n'était pas elle qui avait commis le meurtre. Mais elle faisait partie de la famille ennemie. Roselyne Hamel a tissé avec elle un lien réparateur. En plus de leur discussion, Elle a offert un jour à cette femme une plante et s'est acheté la même plante. Et en prenant soin de cette plante, c'est une sorte de communion entre elles qu'elle a proposée. Elle a tissé un lien très fort avec elle et sa famille. Cette histoire illustre un des sens possibles d'aimer ses ennemis. Évidemment, cela ne va pas de soi, car le mot « aimer » est piégé pour nous. Il résonne de toutes les histoires d'amour que l'on peut mettre derrière avec notre façon occidentale de les vivre, avec peut-être ce qu'on voit dans les films, la jolie musique qu'on voit et qu'on entend derrière. Mais il faut revenir à la Bible qui ne nous montre pas ce visage-là. Aimer ses ennemis, en fait, c'est un travail de libération de soi-même et de l'autre. L'amour des ennemis est déjà un message qui est dans l'Ancien Testament. Il nous montre que ce n'est pas un sentiment, c'est une action. J'ai parlé tout à l'heure du moment de basculement. Dans toute situation difficile, nous avons des choix à faire. On peut basculer dans l'enfermement sur soi-même. On peut basculer dans l'oubli, on se dit non, je vais oublier ça. Ne rien concéder à la personne. On peut aussi décider que non, notre vie ne sera pas empoisonnée, ni par la haine, ni par le ressentiment ou le désir de vengeance. Dans l'histoire de David, regardons ce moment de basculement. Cette histoire est racontée deux fois, à deux chapitres d'intervalle. C'est dire si elle avait eu une importance pour l'auteur. Il y a des petites variantes. David est poursuivi par Saül qui veut le tuer, ça reste. Saül doit laisser sa place de roi à David, et ça, il n'en est pas question, ça reste aussi. David est au fond de la caverne, et il voit Saül. Alors, dans notre histoire, Saül s'accroupit pour soulager un besoin pressant, et dans l'autre chapitre, Saül s'était endormi. David aurait pu le tuer, c'était ce qui était attendu par ses compagnons, et là, David sent son cœur parce qu'il coupe un pan de son manteau, sans doute le premier geste avant de le tuer. Il sent son cœur battre, il écoute ce cœur qui bat, il écoute son émotion. C'est le moment du basculement. Il se dit qu'il ne pourra pas se présenter devant Dieu après avoir tué celui que Dieu avait choisi, même si après la désobéissance de Saül, il sera démis de sa fonction de roi. Saül veut tuer David, et David ne répond pas à cela, il se décale, il se déplace, il agit en montrant qu'il ne va pas être en confrontation avec lui, qu'il ne va pas lui rendre le mal pour le mal. Quelle est sa façon d'aimer? C'est un geste concret, il n'agit pas par ses sentiments, un geste qui épargne, qui ne montre pas d'hostilité. Et quand il est à bonne distance, eh bien, il montre à Saül qu'il aurait pu le tuer, mais il ne le fait pas. Aimer son ennemi, c'est ne pas donner au mal une chance de se répandre, ne pas entrer dans cette spirale du mal. La libération a continué avec la venue de Jésus-Christ. L'expression consacrée, c'est que Jésus vient nous sauver, mais souvent on ne sait pas très bien de quoi il vient nous sauver. Jésus vient nous sauver du mal que nous commettons, parfois sans le savoir, et du mal que nous subissons et qui nous enferme souvent. Aimer son ennemi, ce n'est pas devenir amoureux, c'est vouloir se libérer des sentiments qui nous relient à la personne, ça peut être des sentiments de haine, ça peut être des sentiments de peur, de colère, c'est nous libérer des films qu'on se fait dans la tête, qui nous empoisonnent. Parfois, ça nous donne envie de rentrer sous terre et de ne plus bouger. C'est être libéré de tout cela. Jésus a osé parler de l'amour des ennemis parce que c'est de cette façon la plus extrême qu'on devient des êtres humains, qu'on devient véritablement humain. Contrairement aux animaux qui se dévorent entre eux, nous ne sommes pas en survie vitale. Nous sommes capables de réfléchir, capable d'accueillir nos émotions de discerner les actions justes à faire. Et nous savons très bien que notre orgueil, notre fierté, notre envie de ne pas perdre la face nous empêchent bien souvent de réfléchir dans le bon sens, de trouver le courage de faire le premier pas. Et pourquoi pas d'aller chercher de l'aide? Ce n'est pas de la morale que Jésus vient nous faire, c'est un message de vie incarné. Et c'est pour ça qu'il est crédible. Jésus a vécu lui-même l'humiliation de ses ennemis, leur piège jusqu'à son arrestation et sa mort. Jésus a agi par des gestes de non-violence envers eux, tout en restant debout face à eux. Et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent. La non-violence, ce n'est pas de s'aplatir devant l'autre. C'est de chercher une issue pour garder le dialogue, la possibilité d'une parole réparatrice. À qui te frappe une joue dans l'autre? En grec, le mot « autre » ne veut pas dire forcément la joue gauche. On entend souvent, et parfois on le répète d'une mauvaise manière. Ce n'est pas ça qui nous est demandé. Le mot qui est choisi privilégie le sens de « autre » comme « différent » et pas « autre » de l'un et l'autre. On pourrait comprendre cette expression comme « ne t'enfuis pas, mais présente un autre côté de toi. Décale-toi pour ne pas entrer dans cette spirale de la violence ou de la victimisation aussi. » Ce décalage est un vrai travail en soi, c'est être attentif au point de basculement qui nous fait prendre cette autre direction. Et pour nous aider, nous pouvons regarder comment Jésus applique ça. Quand il se fait gifler par un garde au moment de son interrogatoire chez le grand prêtre, est-ce qu'il tend l'autre joue? Non. Est-ce qu'il reste victime? En tout cas, il répond. Il est agissant dans sa parole. Il reste debout. Et il propose une autre facette de lui-même et il répond « Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et il montre la force de la parole, une parole juste qui révèle ce qui vient de se passer, ce que l'autre fait dans son action. Il révèle cela sans agressivité, factuellement. Et sa force, c'est évidemment de puiser sa ressource en Dieu, parce que c'est, enfin pour moi en tout cas, ça a toujours été de l'ordre de l'impossible de réagir comme ça si on est seul avec nos propres forces. Mais la force de Jésus, c'est de puiser ses ressources en Dieu pour ne pas se laisser envahir par les émotions, par la nécessité de réagir tout de suite. Il réussit à ne pas ajouter du mal au mal. Et de permettre à la parole de réveiller ce mal qui lui fait mal. Car là où le mal déshumanise, la parole humanise. Alors, pour finir ce message, nous pourrons réfléchir par la suite à qui sont nos propres ennemis. Ce ne sont peut-être pas des gens qui veulent nous tuer, mais nous avons tous des relations empoisonnantes, dans le sens propre du terme, qui nous empoisonnent la vie. Des relations qui ne sont pas libérées justement du mal. Alors nous sommes invités par Jésus à nous enraciner en Dieu. Et en fait, la première chose qu'il faut demander à Dieu, c'est de la créativité, c'est de l'imagination. C'est de l'inspiration pour qu'il nous donne justement ces questions qui peuvent nous faire basculer. Parce que ce point de basculement nous permettra de débloquer la situation. Nous pourrons envisager un autre chemin, tourner notre visage vers un autre chemin, une autre issue. Et puis s'enraciner en Dieu pour qu'il nous apprenne qu'on ne meurt pas de mettre notre orgueil de côté. Pour faire le premier pas. C'est en lui que nous avons la vie. Et si nous basculons dans un geste différent, peut-être que notre ennemi, entre guillemets, basculera lui aussi dans une autre attitude. Alors oui, faisons confiance à Dieu. Son amour nous garde vivants. Amen.